13h, Dessus de Table, avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Dessus de Table, c'est l'émission qui met les pieds dans le plat. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bon samedi à tous. Manuel Mariani est déjà là. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Comment allez-vous Manu?
Bah écoutez, ça va. J'attends que vous me fassiez un cadeau pour Noël.
Ah bon, ça vous... écoutez, j'y penserai. Un cadeau pour Noël.
Tiens, ça fait des années que j'attends, Philippe.
Ouais, je sais. J'ai une idée subitement qui me vient.
Vous allez m'offrir une moustache, je le sens.
Et je sais que ça va vous faire plaisir.
Vous allez m'offrir une moustache.
Une moustache de plus. Tiens, Karim des Jumeaux est avec nous. Bonjour.
Bonjour tout le monde.
Alors, quand on dit Karim des Jumeaux, les jumeaux sont bouchés au lilas, bouchés. Alors, on dit plus bio et halal parce qu'on peut plus dire les deux.
Ouais, c'est fini.
Moustache.
Ça y est.
Bah moi je risque le procès, je dis ils sont bio, c'est pas parce que la loi a décidé que c'est pas parce qu'il y a des lois bizarres que la viande des jumeaux n'est plus bio. En fait c'est juste à cause de l'abattage qu'on a plus le droit de dire bio, mais enfin bon,
on peut plus accoler les deux appellations.
Voilà.
En fait,
c'est ça, mais c'est très politique. Après nous, ce qu'on a fait, c'est on a juste changé le nom. On écrit respect de l'agriculture biologique.
Ouais, c'est ça, les bêtes sont élevées dans le respect de l'agriculture
biologique.
C'est ça,
l'éleveur il est certifié bio.
Voilà,
l'abattoir est certifié bio, mais une fois qu'on sacrifie, on respecte le rituel halal, et ben on peut plus l'appeler bio. Voilà. Mais bon, on n'a pas perdu de clients, on a une clientèle qui nous fait confiance, et du coup on leur explique.
Ouais,
du coup,
sûr.
Ça se passe bien, il y a pas de souci quoi. Vu qu'on est en direct avec les éleveurs, on n'a pas vraiment ce souci là quoi.
Et puis comme je dis souvent, hein, je pense qu'une bête qui a été bien élevée et abattue rituellement est toujours plus bio qu'une vache de réforme qui a été abattue sans rituel. Enfin bon, ça n'engage que moi, mon cher Philippe.
Alors Karim des Jumeaux, vous avez la moustache maintenant, donc ouais. Ceux qui iront à la boutique vous verront avec une moustache.
On a tous la moustache en fait, Philippe.
Ouais, et c'est terrible ça.
En fait, on a lancé une mode.
Parce que ça va à personne la moustache.
Bah, je sais pas, écoutez, tout le monde me dit que ça me va bien.
Est-ce que
moi, j'aime pas personnellement.
Est-ce que votre moustache est bio, Karim?
Elle est bio halal.
Elle est bio halal.
Non, mais tous mes gars, ils ont fait la moustache, en fait. Tous, sans exception. Et du coup,
c'est la marque de fabrique.
Fait, mais non, dès que je dis moustache, tout le monde se retourne et dit oui, qu'est-ce qu'il y a? Ça fait rire les clients. C'est pas mal, ça change, quoi.
Alors, on va parler des produits d'exception pour les fêtes de fin d'année. Qu'est-ce qu'on va manger comme viande? Parce que c'est vrai que on mange déjà beaucoup de viande toute l'année, mais on va en manger pour les fêtes. Qu'est-ce qu'on va manger comme viande qui ne soit pas ni de la dinde, ni du chapon, ni du gigot? Un peu qui sorte de l'ordinaire.
Cette année, j'ai un produit qui sort beaucoup de l'ordinaire, c'est de l'oie. En fait, de l'oie de Bresse. Ça n'a pas le même goût qu'un chapon ou une dinde. Donc du coup, l'année dernière, on a fait beaucoup de roast beef, de l'agneau, etc. Cette année, on a de l'agneau pressalé du Mont-Saint-Michel pour les périodes de fêtes. Et on va avoir aussi pas mal de doigts, de canards. Après, pas mal de spécialités qu'on fait nous-mêmes, bien sûr. Voilà. Et bizarrement, j'ai beaucoup de commandes pour la raquette. C'est-à-dire cette année, les gens, j'ai beaucoup de commandes de saucisson sec, de chorizo, de charcuterie en fait qu'on propose, qu'on fait nous-mêmes.
Mais on va tout à l'heure parler un petit peu de ce qu'on mange le 24 décembre dans le monde, hein, et vous allez voir que vous êtes pas très loin de toute façon en parlant de raclette.
Mmh. La raclette, mais c'est une tendance qui n'existait pas avant.
En fait, tous les ans, j'ai l'impression qu'il y a à mon avis, c'est la télévision ou les magazines qui lancent des modes, parce que cette année, on a énormément de commandes pour les raclettes. Je sais pas, l'année dernière, c'était plutôt le gigot d'agneau et des roast beef. Il y a 3 ans, c'était volaille. Et cette année, j'ai beaucoup de demandes pour le bison, pour l'autruche, pour le chameau, des viandes exotiques. Moi, je conseille pas trop parce que, c'est des viandes qui sont ni bonnes ni mauvaises. Pour moi, elles sont neutres. C'est pas comme un roast beef du.
Ouais.
Après, vous prenez le bœuf de Galice, la Rubia Galega, le meilleur bœuf du monde. Vous faites un roast beef dedans, vous allez vous régaler. Vous allez vous en souvenir. Vous allez prendre une dinde de Bresse, vous allez vous régaler. Le chameau, sans plus. Franchement, il y a rien de plus. Les gens quand ils en parlent, ils disent c'est tendre. Ok, mais ce qui a du goût,
Non, c'est tendre. Le chameau, c'est bien en kefta parce qu'on rajoute des épices, des herbes, de l'oignon, tout ça. Mais ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que sinon, le chameau, c'est pas une viande très, très goûteuse. En revanche, pour le bison, Karim, les viandes comme le bison, l'autruche, tout ça, le kangourou aussi, quand on en trouve. Mais c'est vrai que c'est des viandes particulières. Mais
je vous ai fait du kangourou, un steak de kangourou pour le réveillon.
Mais c'est super, c'est très, très bon, Philippe. Mais si vous, c'est des viandes qui ont un goût un peu particulier, mais si on les cuisine comme en civet un peu, comme les gibiers, comme la biche, les choses comme ça, ou comme le lièvre à la royale, vous savez, avec des sauces un peu épaisses, un peu capiteuses, c'est super bon. Hein. Ça peut faire des plats très surprenants, très agréables.
Mais quand on a des invités, est-ce qu'on va se risquer à des viandes qu'on ne connaît pas ?
Écoutez, changez d'invité, Philippe.
Non, en général, les gens qui veulent du chameau ou des viandes un peu exotiques, en général, ils ne sont pas beaucoup, ils veulent prendre voilà, 400 grammes, 500 ouais. grammes. C'est-à-dire qu'ils sont en petit comité. Ouais. Ils ne vont pas risquer de prendre beaucoup de quantité, peut-être ça va pas plaire à tout le monde.
Alors, l'oie de Bresse, elle est nourrie à quoi ?
Alors, l'oie de Bresse, c'est des oies qui sont en plein air pendant à peu près 5 mois et 10 jours. D'accord ? Ensuite, pendant 10 jours, on va leur donner du lait. Du lait en poudre, en fait, ouais. c'est pas du lait en poudre, c'est du lait qu'on va mélanger avec des céréales.
Beaucoup de graines.
Pour avoir une chair qui va être plus tendre. Bien sûr, les oies, il n'y a pas d'antibiotiques, pas d'OGM, c'est un AOP, donc l'avantage qu'on a, c'est que tous les aliments proviennent de la même région.
Oui, et puis pour avoir l'appellation de Bresse, c'est une alimentation majoritairement à base de graines et de céréales.
C'est pour ça, c'est grâce à ça qu'elles ont l'appellation, c'est ça ?
Oui. Enfin, entre autres, il n'y a pas que ça. Il y a la délimitation géographique aussi, comme le disait Karim. Et puis il y a aussi la façon de les élever. Elles doivent être en plein air un minimum de temps sur leur vie, sur leur durée de vie, etc. Donc il y a tout un tas de. C'est comme les labels rouges ou les AOP.
Elles ont 25 mètres carrés d'espace par oie, c'est pas mal. C'est plus grand qu'un parisien, en fait.
Parisien. Ouais. Une chambre de bonne. Elles ont des chambres de bonne, les oies.
Mais c'est plus gros que finalement le chapon, les oies, ou pas ?
Alors, c'est plus gros, mais il y a rien à manger par rapport à un chapon. Il y a plus d'os que de chair.
Il y a pas mal de parties un peu grasses qui sont dans les replis, tout ça, qui, une fois qu'on a paré les morceaux, disparaissent et donc il reste pas des tonnes de trucs à manger. C'est un peu comme la pintade, quoi. La pintade, c'est assez gros, mais une fois qu'elle est parée, ça fait un poulet.
Cette année, l'année dernière aussi, on fait de la pintade chaponnée. Oui. Ça reprend le même principe qu'un chapon, mais en pintade. Ça veut dire que c'est une pintade qui va avoir 6 mois. D'existence et elle va être nourrie au lait comme un chapon, en fait, hein. Et du coup ça va être une pintade qui va être très grasse et moins forte qu'une pintade classique label rouge, par exemple, parce qu'elle a été nourrie au lait, du coup elle est moins forte. Moi j'aime pas trop la pintade
on le dit pour les auditeurs quand même, ça veut pas dire que la viande va être grasse, mais ça veut dire qu'elle va avoir plus de goût, elle va être plus moelleuse,
plus de goût, dû son alimentation au lait, en fait.
Vous avez parlé du canard et du retour en grâce du canard, ça y est, les gens commencent à en manger un petit peu.
Ouais.
Dans la communauté ?
Oui, il y a de plus en plus. Moi, j'ai de la demande toute l'année sur du canard, d'accord ? Mais les périodes de fin d'année, c'est là où j'ai le plus. On vend des très grosses quantités. On va proposer des magrets de canard, des cuisses. Et on peut proposer aussi des cuisses de canard désossé avec une farce à l'orange.
Ça,
c'est pas mal.
Ouais, le canard et l'orange, ça marche bien ensemble.
Ça se marie bien.
Bah oui. Mais je précise une chose, Philippe, c'est le gros paradoxe, c'est que dans les boucheries halal, quand vous parlez à un boucher halal, le canard, ça part très peu. Hein, c'est pas une grosse vente.
C'est pour ça que je posais la question.
Dans les restaurants halal, le magret de canard, c'est une vente number one.
C'est vrai.
Ouais.
C'est vrai. Donc c'est un produit qu'on consomme dans la restauration.
Je pense pas que ce soit un désamour du canard. Je pense que les gens à la maison, ils ont peur de pas savoir le cuire ou le cuisiner, en fait.
Ils ont peur de l'acheter et de le rater, en fait. Alors que bon, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de le saisir toujours côté peau d'abord.
On incise la peau aussi. Hein.
On incise la peau.
Et on démarre à froid la cuisson. Ça, c'est hyper important.
Et vous parlez quoi du magret ?
Du magret canard.
Ouais. Là, vous parlez du magret. Moi, je croyais que vous parliez de la cuisson du canard.
Ah, si vous désossez si vous coupez un canard en morceaux et que vous faites un civet ou un sauté avec, c'est ça.
Vous le faites pas rôtir le canard, Manu.
On peut le faire rôtir aussi, c'est très bon. Mais c'est vrai que quand les fêtes de fin d'année, on a tendance à faire des plats un peu plus mijotés, un peu plus cuisinés. Alors vous pouvez faire. Vous souriez quand je disais le canard et l'orange, ça marche ensemble. Mais il y a quand même le canard à l'orange.
Il y a une pièce de théâtre très connue qui s'appelle le canard à l'orange.
Bien sûr, mais c'est un plat très connu à la base. Hein. La pièce de théâtre s'appelle comme ça parce que c'est un plat emblématique de la cuisine. Il me semble que c'est Escoffier qui avait institutionnalisé le canard à l'orange. Et c'est vrai que le canard, quand il est bien rôti, avec une peau bien croustillante, une chair bien moelleuse et une sauce à l'orange un petit peu aigre-douce comme ça, c'est merveilleux, quoi. C'est merveilleux.
Bon. Je préfère l'oie que le canard quand même. Elle est un peu plus...
Moi, je suis plus canard quand
moi,
même.
Moi, je suis plus oie. Elle est moins... Je trouve que le canard, il est un peu fort. Moi, j'aime pas les viandes fortes, en fait. Ah. J'aime bien les viandes goûteuses, mais pas trop fortes. Mmh. Comme le bison, je supporte pas le bison. Je trouve que l'oie, c'est un peu plus raffiné, quand même.
Ouais.
La chèvre, ouais, j'aime pas, mais le chevreau, ouais.
Le chevreau, c'est autre chose, ouais. Ouais. Bah, c'est évidemment, le chevreau, le cabri, tout ça, c'est délicieux.
Ouais.
Bon, foie gras ou hors note foie gras?
Foie gras, bah, comme d'habitude, foie gras non gavé. On a été... avec Philippe, il y a quelques années, on est parti voir les valeurs.
Ouais. Vous êtes allé voir les oies sauvages, comme dirait Michel Delpech.
Ah, c'était complètement. On a vu les sauvages et les pas sauvages, hein, parce qu'il y avait deux oies, il y avait deux types d'oies. Vous avez les oies qui vivent à l'année sur la propriété, et puis il y a celles qui s'arrêtent. C'est celle-là dont
les oies migratoires. C'est ouais. Ça. Et cette année, on a eu un petit souci, c'est que on a les oies. En fait, il fait trop chaud dans la ferme, et du coup, cette année, le foie gras, il y en a. Très peu.
Les effets de
on a tout vendu déjà. Non, c'est tous les 3-4 ans, c'est comme ça.
J'ai plus de foie gras là.
Là, j'ai plus de foie gras, j'en ai pas eu assez parce que les oies, elles ont pas eu le flash d'aller s'auto-gaver pour parce qu'elles partent en Afrique du Sud en fait.
Ouais, bah oui,
c'est et du coup, il fait encore chaud, pourquoi j'irai en Afrique du Sud s'il fait chaud? Du coup, cette année, le foie gras, on l'aura vers au moins fin janvier, février à peu près.
Bon, bah pour ceux qui veulent du foie gras avant, on donnera une recette au micro-ondes hyper rapide, en 1 minute 30.
Et le foie gras donc des oies qui s'auto-gavent est bien sûr moins gros que celles qui sont gavées dans le Gers.
Ils font... c'est la taille d'un foie gras de canard. À peu près 400-450 grammes. Jusqu'à 500 grammes à peu près. Entre 400 et 500 grammes, ils font... Parce que l'appellation foie gras, il est obligé de dépasser, je crois... Alors Manu, si je me trompe pas, 350 grammes.
Ouais, encore 350 grammes, c'est pas des foies super bon. Alors, on en trouve de plus en plus parce que effectivement avec les vagues successives de grippe aviaire, ça a décimé tous les cheptels et donc on n'avait plus assez de population de canards pour comment dire, si on aurait pas pu faire face à la demande si on avait engraissé gavé les canards suffisamment longtemps. Donc on a tendance à grignoter un petit peu et donc on trouve beaucoup de petits foies qui sont plutôt à 350-400. Moi je dis que un vrai bon foie de canard qui a été gavé correctement, il est quand même autour de 500, parfois 550 grammes quand il est gavé avec du maïs, quand il est gavé traditionnellement et qu'il est bien élevé, on va dire.
Manu, il y a que la France qui a été touchée par la grippe ou parce qu'on trouve beaucoup de foie gras de Hongrie par exemple.
Il y a eu d'autres pays, mais on n'a pas appliqué les mêmes règles sanitaires dans tous les pays. Donc, quand vous avez des foie gras, achetez aussi du foie gras français, c'est hyper important, c'est une garantie d'avoir un produit sain. Vous avez des foie gras qui viennent de Pologne, vous l'avez dit, de Hongrie énormément,
de
Bulgarie
aussi,
de République Tchèque, de Bulgarie. La Bulgarie devient un des plus gros producteurs de foie gras et de volailles grasses d'Europe, mais ce sont des produits, pardonnez-moi l'expression, ce sont des produits de merde. Vraiment, c'est pas du. Alors là, pour le coup, on n'est pas du tout dans.
Alors
le
là, on est fâché avec toutes les ambassades.
Mais attendez, ils ont qu'à faire attention à ce qu'ils produisent. Hein. Ça, j'y suis pour rien.
Mais pourquoi des produits comme vous avez dit, Manu?
Ben parce que la volaille, elle est pas du tout respectée. C'est souvent des gavages mécaniques qui sont hyper traumatisants pour les bêtes. Quand on traumatise la bête, sa viande après quand on là-bas, elle est pas bonne. Enfin bon, puis il y en a qui arrivent avec le label halal et je peux vous dire que vous n'avez pas beaucoup de garanties que le produit soit vraiment halal.
Bien, des produits d'exception pour les fêtes de fin d'année. C'est l'occasion de se faire plaisir aussi hein, et d'en profiter pour étonner tous ceux qu'on va inviter pour ces fêtes de fin d'année. C'est dessus de table jusqu'à 13h sur Beurre FM.
Dessus de table revient dans un instant. Midi 13h, Dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Beurre FM.
Des jumeaux, alors ça fait, on s'en fait un sur deux, les jumeaux bouchés au lila, des viandes d'exception, il y a de tout. Alors on se demandait si cette année le steak de dinosaure allait arriver halal, allait arriver chez les jumeaux.
Non, pas cette année.
Non.
On verra l'année prochaine. Essayé d'égorger un dinosaure, vous, Philippe.
Ah oui, ça, je me suis attaqué à vous, mon couteau m'est resté dans les mains, Manu. qu'est-ce que vous avez comme viande improbable cette année?
Alors, qu'est-ce qu'on a eu?
On a parlé du kangourou. En vrai, vous avez du kangourou?
Non.
Ah bon?
C'est Manu qui a... Moi, j'ai pas fait de kangourou. Chameau. On a fait beaucoup de chameaux cette année.
Ouais.
On a fait de l'autruche, on a fait du bison, mais ça, on l'avait déjà fait. Il y a des produits que je refais plus parce que j'ai pas trop aimé, comme le yak.
Ouais, non, le yak, c'est...
C'est trop fort.
Faut que ça cuise 8 heures au moins.
Le zébu, c'est pareil. La bosse de zébu, c'est... Elle est grasse, comme le wagyu, là, mais... Bon, sans plus, il n'y a rien de plus. Cette année, on a l'agneau présalé du Mont-Saint-Michel, mais la nouveauté qu'on a, c'est qu'on le fait toute l'année. Et quand il est en hors période, parce qu'il a un AOP et un AOC, il a une double certification, on l'appelle agneau de l'abbé. Parce qu'en fait,
De l'abbé ou de l'abbé?
De l'abbé. Agneau de l'abbé. Parce que le vrai terme, c'est agneau de l'abbé du Mont-Saint-Michel.
Oui, c'est l'abbé, pas le curé l'abbé, l'abbé. L'abbé.
L'abbé.
Parce qu'au Mont-Saint-Michel, il y a un abbé aussi.
Mais oui, bien sûr, c'est ouais. Pour ça. Et on ne savait pas qu'il élevait des agneaux.
Et du coup, cet agneau, on le fait toute l'année. Il commence à partir du, si je ne me trompe pas, du 14 mai et il finit le 31 décembre, l'appellation. Parce qu'en fait, c'est un agneau qui est un peu particulier. Il est au Mont-Saint-Michel. Une fois que la marée est basse, on va attendre qu'il pleuve pour dessaler les algues et les herbes marines. Il y a une cinquantaine d'espèces d'algues et d'herbes marines. Et ensuite, les agneaux vont aller brouter pendant à peu près 70 jours. Bien sûr, ils vont tous les soirs. Le
oui,
berger
quand va quand la marée monte, parce que les agneaux n'ont pas de palme et de tuba.
Et quand la marée monte, ils vont rester dans la bergerie pendant quelques jours. Et du coup, c'est particulier. C'est un élevage qui a commencé il y a plusieurs siècles de ça. À la base, c'était un élevage pour les pauvres. Parce qu'en fait, ça coûte rien, en fait, de ramener les agneaux broutés dans les prés salés. Il y a rien à acheter, il y a pas d'aliments, il y a rien du tout. Et paradoxalement, aujourd'hui,
en plus les algues et tout, puis les limons qu'a drainé la mer, tout ça, c'est très nutritif et ça coûte rien.
Et aujourd'hui, c'est l'agneau le plus cher en France. Il y a pas plus cher que cet agneau-là. C'est vraiment une côte d'agneau. Alors nous, on a fait un truc un peu particulier, c'est qu'on on travaille avec une coopérative de trois éleveuses qui font de l'agneau présalé toute l'année. Et du coup, on a des prix qui sont beaucoup plus attractifs. Du coup, on est beaucoup moins cher que le prix du marché. C'est la première fois que je parle de prix pas cher. Hein,
j'ai eu un moment, je me suis demandé si c'était bien Moustache qui parlait. J'ai Karim des jumeaux qui dit viande pas chère. Là, je me suis dit... Mais qu'est-ce qui se passe?
Non, il a pas dit que c'était pas cher, il a dit que c'était moins cher que d'habitude.
C'est le moins cher.
cher du marché.
C'est ça. Donc, du coup, pourquoi? Parce que moi, je trouve que le prix de l'agneau présalé n'est pas justifié. Il coûte trop, trop cher. Il faut savoir qu'un agneau présalé en temps normal, ça vaut 600 euros l'agneau. C'est pas du tout justifié. Il y a du travail, certes, mais quand même pas à ce point. Du coup, on a négocié avec les éleveurs.
Je ne sais pas si vous avez remarqué. Je vous interromps, Karim. Je sais pas si vous avez remarqué. Philippe, je crois que la moustache pousse aussi à l'envers parce que ça lui a endommagé le cerveau.
Ah ouais,
il dit qu'il trouve qu'une viande est trop chère. Ça, je ne comprends pas.
Franchement, l'agneau présalé, quand un produit n'est pas justifié, ça m'intéresse pas de le vendre. Aujourd'hui, mon produit est justifié au niveau du prix. On est passé de les côtes d'agneau. Avant, on était à 75 euros le kilo. Aujourd'hui, on est à 48. Il y a une grosse différence de prix. C'est plus abordable. Bien sûr, c'est pas un produit qu'on peut manger tous les jours, mais c'est un produit qu'on peut manger comme une expérience, en fait. Comme
48, quand vous parlez quoi? C'est pour le gigot, pour les...
Surtout, en fait, même les plats en sauce sont bons, oui, avec. Bon. Il y a une différence.
Alors, par exemple, si on prend une bonne selle.
Enfin, les plats en sauce, vous parlez de l'épaule, c'est ça?
L'épaule, ouais. Le collier, la poitrine. On peut faire les ribs aussi au four, par exemple, ou au barbecue. Bon, c'est pas trop la saison du barbecue, mais On peut tout faire dans l'agneau. Ouais, et du coup, il a un goût particulier. Alors, il n'est pas iodé, il n'est pas salé, parce que j'ai pas mal de clients. La première fois,
Je vous ai taquiné parce que, voilà, moi, j'ai des amis qui sont dit, mais il n'est pas du tout iodé, l'agneau de présalé.
Non, justement, il a un goût particulier. Il ne ressemble pas à un agneau classique. C'est-à-dire que si je vous le fais goûter, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas me dire que c'est de l'agneau. Ça ne ressemble pas à d'agneau. En tout cas, mes agneaux n'ont pas le goût de l'agneau. C'est un goût.
Vous me ferez un blind test.
Quand on le sent, il est un petit peu fort, mais quand on le mange, le premier goût est légèrement fort et l'arrière-goût est très doux et très, très raffiné. C'est pour ça que je le propose beaucoup à ma clientèle. Et du coup, là, pour les fêtes de fin d'année, on va en avoir pas mal. Des carrés d'agneau qu'on peut faire en couronne, des gigots d'agneau désossés. Après la meilleure façon, je pense, c'est un gigot de 7 heures en présalé. Il y a pas mieux. Mais vous aurez pas le goût de l'iode en fait. C'est un goût particulier, mais ça n'a rien à voir avec le sel en fait.
Sachant que le carré d'agneau, vaut mieux le manger saignant.
Ouais.
Bah, de toute façon, un agneau comme ça se mange que saignant.
Ouais, non, mais faut prévenir les gens. Ça se mange saignant.
Il y a pas d'agneau saignant. On parle d'agneau rosé.
Rosé. Ouais. Le bœuf, c'est saignant et l'agneau c'est rosé. On peut pas dire saignant sur de l'agneau. L'agneau présalé, il se mange uniquement rosé. Saignant, c'est pas. Enfin, oui. À part si on fait un méchoui. J'aime bien. Un méchoui à point, j'aime bien. Mais au four, il n'y a pas mieux que de faire une cuisson rosée.
Alors, Manu, on va s'intéresser à la tradition du repas de Noël en dehors de nos frontières. Vous allez nous parler de ce qu'on a coutume de manger, Manu, au cours du réveillon de Noël aux quatre coins du monde. Mais avant cela, j'ai très envie de vous demander d'où vient cette tradition de Noël, Manu.
Ah, alors c'est une très bonne question, Philippe. Mais avant de vous répondre, laissez-moi replanter le décor. Parce que déjà, il faut savoir qu'à l'origine, Noël, c'est pas une fête chrétienne, mais une fête païenne qui nous vient de l'Empire romain. Le 25 décembre, les Romains célébraient en effet Sol Invictus, qui est la grande fête du soleil invaincu, alors que Mithra, qui est une divinité indo-persane, dont le culte était souvent pratiqué par les soldats romains qui avaient combattu en terre perse ou byzantine.
Ah, elle vient d'où la dinde ?
Alors, mon cher Philippe, là aussi, je suis contraint de faire une petite mise au point. Lorsque nos ancêtres ont commencé à réveillonner le soir du 24 décembre, c'était impossible qu'il y ait de la dinde au menu, enfin, en tous les cas, sur notre continent, puisque les équipages de Christophe Colomb n'avaient pas encore ramené la dinde d'Amérique du Sud, qu'ils croyaient d'ailleurs être les Indes, d'où son premier nom de poule d'Inde, qui est devenu dinde tout court, quelques temps plus tard. Alors, cependant, on avait quand même l'habitude de manger de la volaille, en particulier du poulet ou de l'oie. Les volailles étaient alors considérées comme des oiseaux solaires qui garantissaient la protection du soleil à celui qu'on mangeait.
Des oiseaux solaires ?
Oui.
Ouais, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut donc y voir un rapport avec le fameux Sol Invictus, la grande fête du soleil invaincu ? Vous venez juste de nous parler, Manu.
Eh ben, vous avez tout compris, c'est seulement vers le XVIe siècle, après qu'on ait créé des élevages de poules d'Inde, donc de dinde, en quantité suffisante, que la dinde a pris la place du poulet ou de l'oie, parce qu'on considérait à l'époque cette volaille comme étant très exotique. C'est une autre preuve que les traditions de Noël sont un amalgame de coutumes païennes venues de divers pays à diverses époques, l'Église catholique ayant récupéré cette fête pour son propre compte beaucoup, beaucoup plus tard.
C'est très intéressant ce que vous nous dites, hein, Manu.
Merci Philippe.
Je vous explique. Manu m'a tendu une feuille. Bon, que je lis, j'y mets le temps. Et là, il trouve que ce qu'il dit est très intéressant, donc il le dit. Donc c'est très intéressant ce que vous nous dites, Manu.
C'est vrai, Philippe.
Cela signifie donc que tous les non-chrétiens qui boycottent Noël sous prétexte que c'est une fête avant tout catholique se mettent le doigt dans l'œil.
C'est tout à fait le cas, Philippe. Même si Noël est aujourd'hui fortement associé au catholicisme et à la naissance de Jésus, à l'origine, c'est bien une fête païenne. C'est qu'après la chute de l'Empire romain que l'Église a récupéré cette fête à son compte. À cette époque, les chrétiens purs et durs refusaient même de fêter Noël, car non seulement c'était une fête païenne, mais en plus ils contestaient le fait qu'on associe la naissance de Jésus à cette fête, parce que d'après la Bible, quand Jésus est né, je cite, des bergers demeuraient éveillés la nuit dans les champs pour garder leurs troupeaux. Ça signifie donc que Jésus serait forcément né avant les premières grosses pluies d'automne, quand on rentre les moutons à l'étable, c'est-à-dire autour du mois d'octobre, en tous les cas, certainement pas après le début du mois de novembre.
Bon, on en parlera dans Spicuni, hein, Manu, en tout cas, comme tous les ans, ça fait débat, cette question de fêter ou pas Noël.
Bah oui, exactement, Philippe. D'autant que Noël est célébré absolument partout dans le monde. Par exemple, en Estonie, on consommera du porc accompagné de choux fermentés, du pain d'épices et de la bière, dont on laissera les restes jusqu'au lendemain sur la table, en prenant également soin de laisser le feu allumé dans la cheminée pour chasser les mauvais esprits pour toute l'année à venir. Alors, chez les Italiens, pas de viande. On fera plutôt un véritable festin à base de fruits de mer, de poissons et de légumes, sachant que dans chaque région en Italie a ses propres recettes de Noël. À Rome, la capitale, on mange une soupe de poisson dans laquelle on ajoute des petites pâtes comme des risoni par exemple, et des brocolis. En Calabre, une autre région, on déguste traditionnellement les pastas alici et mollica. Ce sont des spaghettis aux anchois parsemés de miettes de pain grillées à l'huile d'olive. Ça, c'est absolument délicieux. Autre exemple à Naples, mais aussi à Venise, où on mange traditionnellement des frittelle di bacalà, qui sont des beignets de morue, et on mange ça avec un simple filet de jus de citron.
À vous croire, le soir du réveillon, c'est un peu partout dans le monde. On mange principalement des plats simples et traditionnels. Alors
dans l'ensemble, c'est assez vrai, mais dans certains pays comme le Japon, j'ai découvert des traditions de Noël très récentes qui vont vous paraître absolument incroyables. Figurez-vous que dans les années 70, la chaîne américaine KFC a lancé un menu spécial Noël le soir du réveillon au Japon, donc, et ça a été un tel succès que c'est toujours le cas aujourd'hui, avec un menu autour de 30 € avec champagne et pâtisserie inclus dans un KFC quand même, ça étonne, et qui continue à faire le plein aujourd'hui encore chaque année. Hein. Alors les habitants des grandes villes nippones peuvent même faire jusqu'à 2 heures de queue sous la neige pour avoir une table au KFC le soir du réveillon, c'est incroyable. À tel point qu'un grand nombre de Japonais qui souhaitent pas attendre aussi longtemps dans le froid réveillonnent à la maison. Et devinez ce qu'ils ont mis au menu, Philippe ?
Du KFC, du poulet frit.
Alors absolument, un bel exemple de réussite marketing. Certains s'en font même livrer depuis le KFC pour pas avoir à sortir. Mais alors plus près de chez nous, il y a d'autres coutumes récentes tout aussi incroyables, comme en Suisse par exemple, ou comme en France, on réveille généralement d'une manne farcie suivie d'une bûche de Noël. Mais depuis bientôt 3 décennies, une mode surprenante s'est développée en Suisse, c'est celle de la fondue chinoise de Noël, Philippe.
On parlait de la raclette, mais là aussi la fondue chinoise, c'est une tradition. Vous nous faites marcher un petit peu, non ?
Non, pas du tout. L'explication elle est même simple. C'est que chez les jeunes Suisses qui voulaient rompre avec le repas de Noël traditionnel, on avait pour l'habitude de manger une fondue au fromage ou encore une fondue bourguignonne pour leur côté convivial. Mais il y a un fabricant de produits asiatiques qui voyait ses ventes de fondue chinoise s'effondrer chaque année au moment des fêtes en Suisse. Il a donc décidé de contre-attaquer en lançant une grande campagne de pub sur sa fondue chinoise, plus digeste et moins calorique car les aliments sont cuits dans un bouillon et non pas dans de l'huile. Et puis il n'y a pas de fromage qui est très calorique aussi. Et puis ça pouvait plaire à toute la famille, y compris aux enfants. Dans la fondue chinoise, les ingrédients sont au choix de chaque convive, du poulet, du bœuf, des crevettes, des poissons, des légumes, du tofu, contre une option 100% fromage ou 100% bœuf pour les fondues classiques. Donc c'est des arguments qu'ont vraiment touché les Suisses, toutes générations confondues, qui sont désormais près de, tenez-vous bien, 80% à manger de la fondue chinoise le soir du réveillon de Noël. Et c'est d'autant plus incroyable qu'un Chinois ne mettra jamais une fondue au menu des fêtes de fin d'année, parce qu'en Chine, le choix des plats de fête doit répondre à une symbolique très précise.
Mais est-ce qu'ils font les fêtes de fin d'année d'ailleurs les Chinois ?
Ah bien sûr.
Ils font Noël ?
Bah ouais, bien
ils
sûr.
Font pas, et le Nouvel An, c'est pas le même, non ?
Ah non, mais enfin je veux dire les Chinois de France fêtent Noël.
D'accord.
Non, je vous ai pas. Ah voilà, mais en Chine aussi, il y a une communauté catholique qui existe, qui est pas la plus importante mais qui existe, il y a pas mal de Chinois catholiques qui fêtent Noël et puis même aujourd'hui on fête Noël en Chine un petit peu quand même.
Allez, on quitte la Suisse, Manu. Où on va ?
Alors, tenez, encore une particularité, partons en Russie, où on ne célèbre pas Noël même soir que chez nous, mais une quinzaine de jours plus tard, durant ce qu'on appelle le Nouvel An russe, qui est en fait leur Noël, c'est le Noël du calendrier des Grégoriens. Parce que suite à la révolution communiste, qui était profondément anticatholique, toute forme de festivité avait été interdite le 24 décembre, y compris le sapin avec les boules et les guirlandes, Philippe. Et vous pouviez même partir en prison, si on vous trouvait avec un sapin chez vous, avec des guirlandes. Donc, pour ce repas de Noël après l'heure, le menu est traditionnellement végétarien. Le plat le plus répandu, c'est la kutia. C'est une espèce de porridge à base de blé bouilli, auquel on ajoute de la cannelle, du miel, des graines de pavot, des fruits, des raisins secs. J'ai déjà eu l'occasion d'en voir, mais j'y ai jamais goûté. C'est sans
c'est
doute
pas bon.
Plat. Ouais, c'est
j'étais en Russie l'année dernière.
Je l'ai vu et c'est quand même l'un des plats les moins appétissants que j'ai vu de toute ma carrière de journaliste gastronomique.
On va au soleil, Manu, on en a besoin.
Alors oui, c'est certain. À l'image de la Nouvelle-Calédonie, par exemple, qui pour elle mange principalement des poissons et des fruits de mer, ça j'adore, et qui sont très nombreux et délicieux évidemment dans l'archipel. C'est notamment la période où on a l'habitude de casser sa tirelire pour offrir à toute sa famille une jolie langouste porcelaine que l'on fait cuire sur la braise. Alors toujours au soleil, au Mexique, le dîner de Noël est l'occasion de partager une bête entière. Alors agneau, cochon, veau, rôti à la broche, qu'on accompagne d'une salade de betteraves aux cacahuètes et aux fruits.
En Asie maintenant, Manu.
Alors oui, aux Philippines par exemple, on invite toute la famille qui peut être très grande et on prépare donc des buffets sur lesquels la plupart des invités déposent des plats de Noël qu'ils ont préparés comme le jamón de bola, un jambon confit dans le miel, du puto boumbong, c'est un riz local cuit à la vapeur dans un tube de bambou, et ça c'est très très bon. On en fait un petit peu aussi en Chine, du riz cuit dans un bambou comme ça, ou encore des bibinka, c'est très dur à prononcer, qui sont des gâteaux de riz aux œufs et à la noix de coco grillée.
Une seule langouste, ça coûte si cher que ça?
Alors non Philippe, c'était un piège parce que les langoustes sont très bon marché en Nouvelle-Calédonie, mais la langouste portionnelle, c'est une variété qui est très rare, avec une chair très fine et très délicate, et elle peut peser jusqu'à 10 kilos, donc une seule langouste peut nourrir toute la famille, Philippe.
C'est bien ça. Et le Père Noël, il mange quoi le soir du réveillon?
Alors, c'est puisque vous croyez encore au Père Noël, Philippe.
Je rappelle que c'est vous qui croyez au Père Noël, Manu.
Non mais bon, vous savez bien que pour le Père Noël, le soir du réveillon, c'est Ramadan d'office, tellement il sera occupé à distribuer des cadeaux partout dans le monde. Mais s'il prend un jour sa retraite, vu que sa maison se trouve à ce qu'on dit en Finlande, il mangera la même chose que ses compatriotes finlandais, à savoir du jambon braisé, des légumes au gratin et des biscuits à la cannelle qui ressemblent à s'y méprendre à des cookies.
Bien, allez, on s'occupe de savoir ce qu'on va manger, des produits d'exception pour les fêtes de fin d'année. Dans un instant, on va s'occuper du dessert aussi, Manu, hein, parce que c'est important le dessert.
Dessus de table, reviens dans un instant. Midi 13h, dessus de table avec Philippe Robichon et Manuel Mariani sur Peur FM.
Des produits d'exception pour ces fêtes de fin d'année avec Manuel Mariani et puis Karim des Jumeaux qui est là, boucher au Lila, viande d'exception. Et en parlant d'exception, Manu, on va s'occuper du dessert.
Ah oui, Philippe, hein, parce que moi je mange rarement du dessert, mais là on va parler d'un type de dessert que je suis tout à fait ravi de manger, parce qu'on va parler de desserts un peu en trompe-l'œil, qui sont exclusivement faits à base de fruits. Et pour ça, on a donc appelé notre ami Atef Barbouche de la ferme de Longchamp, fruits et légumes d'exception à Paris, et également des corbeilles de fruits et des préparations, on pourrait dire des gâteaux de fruits, mais il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de pâte, il n'y a que du fruit dedans. Donc c'est Atef Barbouche qui est allé avec nous par téléphone. Bonjour Atef.
Enchanté tout le monde, bonjour, comment ça va?
Ça va bien Atef.
Ça va très très bien. Alors Atef, vous êtes pâtissier à l'origine, mais vous avez repris la direction de la maison, la ferme de Longchamp, qui est une maison de famille, hein, sur plusieurs générations. Vous travaillez avec vos frères, et vous, en bon pâtissier que vous étiez, vous avez commencé à faire des bûches de Noël uniquement avec des fruits, mais dedans il y a pas de pâte, il y a pas de cuisson. Alors expliquez-nous comment ça tient, comment vous faites ça, qu'est-ce qu'il y a comme fruit dedans. Décrivez-nous un peu ça, Atef.
Alors qu'on explique un peu à nos auditeurs comment tout ça a commencé. Donc à la base, oui, c'est vrai, j'étais pâtissier. Par la suite, j'ai repris cette entreprise familiale qui est Primeur. Donc Primeur, c'est quoi? C'est vendre des fruits et légumes des quatre saisons et d'outre-mer. Et aujourd'hui, en fait, en reprenant cette entreprise, au bout d'un an d'activité, le côté créatif de la pâtisserie m'a beaucoup manqué. Donc depuis maintenant 5 ans, on a développé des créations à base de fruits, que de fruits frais.
Des créations artistiques, j'ai envie de dire, hein, presque.
Oui,
hein.
Oui, il n'y a rien du tout d'ajouter, il n'y a que du fruit. Et voilà, aujourd'hui, on peut se permettre de faire des sushis de fruits, on fait des gâteaux de fruits, on fait des bûches de fruits. Donc c'est vrai qu'on s'éclate avec tous nos fruits et légumes. Et aujourd'hui, c'est devenu une référence dans Paris. On est très heureux. Et on est très heureux de pouvoir combler nos convives. D'ailleurs, je tiens à te dire, ne me fais pas de pub sur la bûche de fruits, car nous ne prenons plus de commandes, malheureusement.
Ah bah, c'est facile. Alors sur le fraisier, alors?
Oui, sur le fraisier, la salade de fruits revisitée, on prend encore des commandes. Mais les bûches, malheureusement, on a arrêté depuis la semaine dernière.
Oui, parce que ça prend du temps à faire. Parce qu'il y a combien de fruits dans la bûche, dans la bûche? C'est un trompe-l'œil, hein, on dirait vraiment une bûche de Noël.
Cette année, on est sur une bûche banane coco passion. Kaki ananas mangue passion.
Voilà. Oui, d'accord.
Donc, on est sur deux modèles. C'est pour ça que En fait, tu veux, nos clients commandent un mois à l'avance les bûches pour Noël, car on s'arrête à une quarantaine de bûches pour respecter la qualité de nos produits.
Alors, bravo. vous faites aussi des pâtisseries dans lesquelles il n'y a pas de pâte, pas de farine. Alors, ça, pour les intolérants au gluten, c'est sympa.
On a même ouvert des pâtisseries.
Oui, vous venez d'ouvrir une pâtisserie à Orléans, c'est ça, hein?
Exactement. Donc, il y a une pâtisserie 100% fruits qui a ouvert à Orléans. Il y en a une à Paris et bientôt, il y en aura une par région en France. Et tous nos consommateurs pourront s'égaler à acheter des pâtisseries 100% fruits pour leur dessert, parce que ça fait que du bien.
Bon, ça, c'est un nouveau concept très, très intéressant, notamment pour les gens comme moi qui n'aiment pas les desserts, qui sont souvent trop sucrés, ou pour les gens qui sont intolérants au gluten, par exemple.
Bravo, hein.
Tu sais qu'ils peuvent personnaliser leur création aussi, hein.
Voilà, Atef, là vous avez, ouais, vous avez Karim des jumeaux, la boucherie halal et bio au Lila qui vous parle.
Atef, vraiment bravo, hein. Je regarde sur ton site internet, c'est exceptionnel. Félicitations. Et en fait, tu joues beaucoup avec les trompe-œil et moi j'adore.
Ouais, LFL.com, hein, si les auditeurs veulent aller voir les créations d'Atef Barbouche à la ferme de Longchamp, LFL.com.
LFLcréation.com.
LFLcréation, pardon. Au pluriel ou au singulier, création?
Au pluriel.
LFLcréation au pluriel.com, d'accord.
En tout cas, bravo. Et t'as pensé à, si tu devais marier les fruits et légumes avec de la viande, par exemple, ou du poisson, qu'est-ce que tu prendrais?
Pour les fêtes?
Je pense que
je jouerais avec la mangue et le fruit de la passion. C'est des produits qui se mettent beaucoup en avant pour les fêtes.
Ouais, ça marche très bien avec les volailles, hein. On a parlé de volailles.
Si tu devais marier,
même si j'étais chef cuisinier, mais je ne le suis pas, je donne des conseils, c'est utiliser le litchi. Je pense qu'il peut avoir un arôme assez exceptionnel dans vos cuisines.
Ouais, le litchi avec les gibiers, ça marche bien.
Si tu devais marier une volaille ou une viande avec une bûche, par exemple, qu'est-ce que tu mettrais?
Qu'est-ce que je mettrais? En légumes ou en fruits?
Non, en viande. Ah, de la viande avec tes produits, par exemple, je sais pas, du foie gras. Qu'est-ce que tu proposerais?
Ah, faire un trompe-l'œil, c'est-à-dire un faire un truc de fruits en entrée, c'est ça?
En fait, mélanger, marier les fruits avec de la viande.
Ouais, un petit millefeuille de foie gras ou
un légume, par exemple.
Ça se réfléchit. Tu pourras revenir vers moi plus tard, mais je pense que ça se réfléchit.
Écoute, avec plaisir. Avec plaisir.
Bon, je sens que la ferme de Longchamp et les jumeaux vont faire des trucs ensemble.
Hein. Non, moi, en ce moment, je travaille sur des trompe-œil. Ce sera mon objectif de 2020. J'ai vraiment envie de révolutionner, de casser le monde de la viande par rapport à ça. Et du coup, sûrement, je t'appellerai, on collaborera ensemble.
Avec grand plaisir, n'hésite surtout pas. Et si tu veux passer au labo ou au magasin, n'hésite pas non plus.
Avec grand plaisir.
Oui, Philippe. Oui. Ah d'accord, oui, ok, vous me repassiez la balle. Je pensais que vous aviez une question à me poser. Oui, Atef. Alors, bon, ce qu'on a pas dit aussi, c'est que bon, vous faites aussi des corbeilles de fruits, parce que ça peut être sympa. Dans la tradition, souvent des fêtes de fin d'année, les desserts en général. Enfin, moi, je sais que quand je fêtais Noël en Corse, il y avait pas de dessert, on mangeait beaucoup d'agrumes, hein, des oranges, des clémentines de Corse, évidemment. Pour le dessert, que ce soit pour Noël ou pour le jour de l'an. Et vous faites des très belles corbeilles de fruits. D'ailleurs, vous livrez les palaces parisiens, l'Elysée, etc. Vous avez qui comme client prestigieux à TEF encore?
C'est vrai qu'on a la chance d'avoir pas mal de clients prestigieux. Voilà, vous en avez cité déjà quelques-uns qui sont très bien. Mais on a la chance, c'est vrai, d'avoir une belle clientèle. Et aujourd'hui, nous, notre démarche est vraiment de servir tout le monde. Voilà, c'est vraiment que ça soit une personne qui veut une petite bûche ou quelqu'un qui veut se faire plaisir. Voilà, il y en a pour tous les budgets. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, notre devise, c'est vraiment de servir tout le monde et de faire plaisir à tout le monde. Et c'est pour ça qu'on personnalise aussi les créations, qu'on est très ouvert sur les demandes de nos clients.
Oui, je rappelle quand même, si c'était nécessaire, que vous faites aussi des fruits et légumes.
Oui, bien sûr, qu'à la base, on est quand même primeur. À la base, oui, on nous a reconnus pour nos corbeilles de fruits. Et par la suite, toutes nos créations que vous voyez à travers vos écrans.
Ok, on va donner votre adresse et puis on va rappeler l'adresse des jumeaux aussi, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Ah non, on n'arrive pas à la fin de l'émission. Alors juste, là, on rappelle l'adresse de la ferme de Longchamp, pardon, 58 rue de Longchamp à Paris 16e, et donc le site LFLcréation au singulier.com. Et puis redonnez-nous votre adresse.
Alors nous, on est au 99 rue de Paris, au Lila 93 260, et là, la boucherie s'appelle Boucherie les Jumeaux.
Merci Atef d'avoir été avec nous.
Au revoir Atef.
Merci Atef, à bientôt.
Merci les jumeaux. Merci Manuel et à très bientôt.
À bientôt.
Salut Atef, à plus tard.
Bien, Manu, je voudrais savoir comment on choisit un bon foie gras, comment on fait?
Alors, déjà, que ce soit pour l'oie ou pour le canard, on distingue trois catégories de foie gras. Il y a le foie gras extra, il y a le premier choix et il y a le tout venant. Alors là, je vous les ai cités du meilleur au moins bon. Les deux premières catégories sont de bonne qualité, ils sont parfaits pour faire un bon foie gras maison. Mais le tout venant, c'est un foie gras de mauvaise qualité qui peut donner l'impression de faire une économie à l'achat. Mais il va rendre tellement d'eau et de graisse à la cuisson que la perte de poids sera très importante et vous allez être perdant. Donc, achetez un foie gras cher, c'est l'assurance de faire une économie, paradoxalement. Et bon, en plus, c'est un discours qui va plaire à Moustache.
Alors, non, mais moi, je suis pas partisan du foie gras gavé. Hein.
Non, bien sûr, bien sûr.
Alors, on va parler de l'aspect déjà, Manu.
Alors, au niveau de la couleur, le foie, il doit avoir une teinte qui est entre le beige et le caramel. Il doit pas être trop clair. Il peut tirer sur le jaune aussi, hein, parce qu'il y en a qui sont nourris avec beaucoup de maïs et qui sont un petit peu jaunes. Ensuite, le foie, il doit être joliment bombé et bien lisse. Et quand on appuie dessus avec le doigt, il doit être souple et résistant. C'est-à-dire qu'une pression du doigt, ça laisse un léger creux sur le foie et il reprend sa forme initiale quelques secondes plus tard. Un bon foie gras cru, il doit être élastique. Alors, il faut choisir des foies pas trop gros. Pour le canard, entre 400 et 500 grammes maximum. Et pour l'oie, entre 500 et 600 grammes maximum. Là, je parle des oies gavées, je parle pas des oies qu'utilisent les jumeaux. Hein.
Et quand on entend parler de foie événé, Manu, ou encore dévéné, ou encore d'autres qui sont dénervés, qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors tout ça, c'est exactement la même chose.
Ouais.
Ça signifie que les deux grosses veines et les petites veines qui en découlent, qui traversent le foie, elles ont été enlevées. Les laisser, ça change pas grand-chose au goût, mais c'est pas très agréable à la dégustation quand on les laisse. C'est pour ça que je conseille.
C'est amer ?
Ouais, non, ouais. c'est pas amer. Ça a pas vraiment de goût, mais parce que il y a plus de sang dedans, donc
on le ressent en bouche en fait légèrement.
Ouais, mais c'est voilà. Si on tombe dessus, ça peut se coller entre deux dents. C'est pas très agréable. C'est voilà.
Si vous le dévenez vous-même. Il faudra le laisser à température ambiante pendant à peu près 30 minutes. Ouais. À froid, c'est impossible, vous allez le casser. On peut le faire à la main ou à la fourchette.
Ouais, à la fourchette, alors une fourchette pas trop pointue. Ou sinon, il y a un truc qui marche très bien, c'est le couteau à beurre. Avec le bout du couteau à beurre, vous levez la veine, vous la suivez. Et il y a deux grosses veines en fait. Vous allez l'ouvrir en deux, le foie gras, vous attaquez la veine et vous suivez jusqu'à ce que la veine fasse un Y. Quand vous êtes arrivé au bout du Y, c'est que c'est parfaitement dévéné. Alors,
pour le foie gras poêlé, donc, est-ce qu'il faut aussi enlever la veine, Manu ?
Alors pour le foie gras poêlé, oui, on enlève aussi la veine, mais c'est pas obligatoire, donc c'est préférable. Cependant, pour le foie gras poêlé, ce qui est beaucoup plus simple, c'est de couper d'abord le foie gras en tranches épaisses, et après ensuite vous avez vous voyez les veines apparaître dans la coupe, et avec une petite pince à épiler ou entre le doigt et la pointe d'un couteau, vous tirez la veine et elle sort toute seule. Donc là, c'est beaucoup plus simple.
Et si j'achète mon foie tout prêt, déjà cuit? Qu'est-ce que je dois savoir?
Alors, il y a trois types de foie gras, qui peut être doigt ou de canard. Tout d'abord, il y a le foie gras dit entier. Donc, ça consiste d'un foie en un ou plusieurs lobes qui sont cuits après avoir été assaisonnés et parfois marinés. Ensuite, il y a le foie gras tout court, on va dire. C'est des petits morceaux de lobes. Souvent, on fait ça avec les chutes des lobes. C'est des petits morceaux d'au moins 30 grammes, hein, minimum. Ça, c'est important. Qui sont assaisonnés, agglomérés et cuits ensemble. Et puis ensuite, il y a le bloc de foie gras. Là, c'est fabriqué à partir des chutes.
Des chutes, ouais.
Qui est ensuite émulsionné avec de l'eau. Dans ce cas, donc, le foie gras, le bloc, c'est pas très cher, mais vous achetez quand même de la flotte. Hein. Et dans ce cas-là, on a une texture avec moins de mâche et c'est plus proche d'une mousse que d'une terrine.
Et quand on parle de foie gras, mais alors cette fois-ci en terrine ou mi-cuit, ça correspond à quoi ?
Alors la terrine de foie gras, elle est pasteurisée, donc on a une durée de conservation plus longue, mais je trouve qu'on y perd un peu en goût. En revanche, le foie gras mi-cuit se conserve moins longtemps, mais on a quand même plus de saveur, on sentira mieux l'assaisonnement, la marinade. Et puis il y a aussi le foie gras cru, donc si on le cuit à la poêle en tranches épaisses, comme on vient de le dire, c'est également très très bon.
Bon, week-end de course, vous êtes ouvert demain dimanche, les
on
jumeaux
est on est ouvert tous les jours. En ce moment, c'est la période pour nous. Du coup, même la nuit, on
est ouvert la nuit aussi.
La nuit, en fait, on est là, on travaille, on a beaucoup de commandes. Mmh. Du coup, on travaille tout le temps, en fait.
Ouais. Le lundi, parce que le lundi, c'est le jour de fermeture, souvent, pour les bouchers.
Oui, mais c'est une période pour nous qui est énorme. Du coup, comme le ramadan, en fait. Hein. Du coup, on en profite et on ouvre tous les jours. Mmh. On se reposera au mois de janvier.
Qu'est-ce qu'ils mangent les gens cette année? Moi, c'est intéressant de savoir si qu'est-ce qui commandent.
Ouais, le top des ventes, c'est quoi pour vous?
Ouais. Bah là, j'ai une tendance pour de la raclette. Je sais pas pourquoi.
Ah, cette année, bizarre. À la
raclette.
Suisse.
Alors, quand vous disiez de la raclette, c'est pour les fêtes. J'avais pas compris ça. J'ai cru que les gens mangeaient beaucoup de raclette en ce moment, mais je sais pas qu'ils ont commandé.
Oui, en ce moment, j'en vends beaucoup, mais je sais pas pourquoi cette année pour les fêtes de fin d'année, les gens ils veulent manger des raclettes.
Bon, alors vous vendez le fromage aussi du coup, ou vous faites que la viande?
Non, moi on va dire que je préfère. Je suis boucher, charcutier. Je préfère respecter mon métier et vendre que ça.
D'accord.
Je laisse pour les fromagers vendre du fromage et moi je réalise mon métier, donc boucher, charcutier.
Alors il y a quelque chose qui est très bon avec la raclette, c'est ce qu'on appelle la viande de grison. Est-ce que vous avez l'équivalent en halal de viande de grison?
La viande des grisons, c'est pas du porc déjà, faut le savoir. Hein.
Non, la viande de grison, c'est du bœuf séché en Suisse, donc c'est une appellation d'origine protégée.
C'est souvent très cher d'ailleurs, hein, la viande de grison.
Ouais. Ouais, bon, ça en est au même prix, je crois. Alors nous, on fait du bœuf séché et du veau séché. C'est un produit qui cartonne. Nous, il sèche pendant à peu près 3 mois et demi, 4 mois. Et on le vend en 3 secondes. Le bœuf de grison, c'est un produit qui a 6 mois de sèche. Et la bressaola, c'est un produit qui a 3 semaines de sèche.
Voilà, et vous avez un équivalent de la viande des grisons qui a plus de sèche que la bressaola en Italie. Il s'appelle le speck. S-P-E-C-K, c'est, ouais. C'est du bœuf séché, et c'est un bœuf séché qu'on fait dans les Dolomites, dans la région des Dolomites en Italie, c'est délicieux aussi.
Le speck, il l'utilise surtout pour faire des roulés, en ouais. fait, avec du fromage, etc. Mais nous, on fait du bœuf séché, et on le fait nous-mêmes, en fait, c'est pas mal, et on met pas de sel nitrité, bien sûr, il n'y a pas de produits chimiques dedans, et du coup, ça marche très très bien.
Voilà. Et donc sur la page du replay de l'émission, je vous mettrai des recettes de fête, Philippe, hein, à base de foie gras, ou on fera une bûche, mais à servir en plat de résistance, en trompe-l'œil aussi, puisque ça plaît aux jumeaux, des œufs cocottes au foie gras, tout plein de petites recettes. Et puis je vous mettrai un exemple de réveillon express en moins de 45 minutes.
Merci Manu, on va se retrouver la semaine prochaine. Merci Karim.
Au revoir, merci
Karim.
Beaucoup,
Boucher Philippe, les jumeaux au Lila, et passez un bon week-end sur Beurre FM.
À plus tard.
Retrouvez Dessus de table tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.